France Musique. Grand large, Benjamin François.
Bonjour à tous, troisième volet de notre histoire de Rome au Seicento qui fourmille de talents dans tous les domaines artistiques avec un gros plan aujourd'hui sur la basilique Saint-Pierre. C'est elle qui focalise tous les commentaires à cause de sa splendeur mais aussi de la surprise et même du choc qu'elle réserve aux visiteurs qui ne peut la découvrir qu'au tout dernier moment à son arrivée. À une époque où la Via della Conciliazione n'existait pas, elle n'a été réalisée sur ordre de Mussolini qu'au début des années 30 et inaugurée en 1950, tout un enchevêtrement de ruelles, d'églises, de places empêchait une vue d'ensemble du monument. Mais du coup, l'effet de surprise du visiteur qui ne découvrait le gigantisme de l'édifice qu'au tout dernier moment s'en trouva anéanti. Rappelons que le pape Alexandre XII ne confia aux Bernins l'aménagement de la place avec ses 284 colonnes réparties autour d'une ellipse de 240 mètres de long, permettant une vue sur la plus haute coupole du monde, qu'en 1655. Ce qui frappe le visiteur étranger du XVIIe siècle, c'est l'aspect bucolique et presque désert de cette ville aux vastes jardins, champs, ruines antiques, où l'on fait paître des troupeaux, cohabitant avec de riches palais, l'incroyable grandeur du Vatican, tandis que ses habitants y mènent une vie simple et presque campagnarde, jusque dans les quartiers proches du centre. Dans cette Rome du XVIIe siècle, il règne une atmosphère à nul autre pareille, dans aucune ville italienne. Cela est dû à la présence d'un drôle de gouvernement ecclésiastique dont le chef exerce son pouvoir temporel sur son propre territoire et un autre pouvoir de nature spirituelle sur une grande partie de l'Europe de cette époque. On ne s'étonnera donc pas de croiser dans les rues des cohortes d'hommes en soutane envoyés provisoirement par leur pays ou leur diocèse. En définitive, peu d'entre eux sont romains de souche. On cite un jour à Montesquieu que sur 100 habitants, 10 d'entre eux ont un père et une mère romains et sont nés dans la ville. L'habit ne faisant pas le moine, à Rome, il ne faut pas non plus prendre tout homme arborant une soutane pour un prêtre. Selon une drôle de coutume, il vaut mieux pour un artisan ou un commerçant porter lui aussi la robe s'il souhaite garder des ecclésiastiques parmi ses clients. De même, l'ascenseur social marchera beaucoup mieux pour un jeune fonctionnaire de porter la soutane et d'entrer ainsi dans le cercle d'un cardinal pour devenir lui-même cardinal, puisque la fonction ne réclame pas d'avoir été prêtre lui-même.
Thank you.
Au XVIIe siècle, la noblesse romaine se répartit entre quelques familles, les mêmes depuis le Moyen-Âge, qui captent toute la richesse, système entretenu par le népotisme, qui s'ouvrira sur d'autres familles. Alors les noms sont les Barberini, Borghese, Pamphili, I tutti quanti, on va pas les citer toutes, qui comptent un pape dans leur lignée. Mais ce tropisme de robe ne devait pas nous faire oublier que la ville repose avant tout sur ses classes populaire. Le visiteur observateur fait remarquer, goguenard, qu'un tiers de la population est constituée d'ecclésiastiques, un autre tiers de gens qui ne travaillent guère et un dernier tiers de gens qui ne font strictement rien. Blague mise à part, si les classes moyennes n'existent pas à Rome au XVIIe siècle, un médecin doit se chercher un bien-né pour pouvoir survivre, idem pour l'avocat ou le précepteur. Ce sont les artisans, ouvriers du bâtiment et une ribambelle de domestiques qui trouvent à vendre leur force de travail comme maçons, peintres, stucateurs ou forgerons. Pour le reste, une foule de mendiants se presse dans les rues à la recherche du pourboire occasionnel ou du service à rendre à l'étranger. Ils trouvent leur pitance grâce à la foule de couvents romains qui distribuent nourriture aux portes des églises et des cloîtres, ce qui occasionne parfois quelques émeutes, pour ne pas parler des règlements de comptes entre bandes rivales. Cette situation est permise par d'anciennes tolérances qui transforment en zone franche toute église, couvent, à bord du palais d'un cardinal, d'un ambassadeur étranger et même les rives du Tibre, rendant le travail de la police impossible. Le XVIIe siècle aura vu défiler pas moins de 17 papes à Rome, de Clément VIII à Benoît XIV, mais certains d'entre eux auront été déterminants pour leur rapport artistique et musical. Le premier est Paul V Borghese, qui règne entre 1605 et 1621. C'est lui qui libéralise un peu la sévérité du Concile de Trente. Il remet en route les grands travaux de Saint-Pierre, libère les arts, commande une multitude de statues, bronze, marbre, stuc, ordonne la construction fondations d'églises. Bref, il contribue à ce qu'on oublie la grande crise que la réforme infligea à l'église. Vint ensuite, à la fin des années 1620, Urbain VIII Barberini, originaire de Florence. C'est lui qui consacre la basilique en 1626, choisit Le Bernin, plutôt un bon choix, qui consacre, soit dit en passant, 60 années de sa vie au Vatican et à la ville, et Francesco Borrome pour remodeler la place. On ne saurait passer sous silence Urbain VIII, qui règne durant 21 ans. Il fait décorer l'intérieur de Saint-Pierre, fait construire des églises importantes. Surtout, il aime être entouré de musiciens dont il ne se sépare jamais, même quand il part se reposer à sa résidence d'été de Castel Gandolfo. Et puis, pourquoi ne pas évoquer aussi Clément IX, qui accède au trône papal âgé de 67 ans. Il est un des meilleurs auteurs de livrets d'opéra de son siècle, avec pas moins de 8 livrets, mis en musique par les meilleurs compositeurs de son temps, ce qui lui vaudra le nom de l'autre Orphée et ne l'empêchera nullement de devenir pape. Durant son pontificat, il n'hésitera pas à faire créer l'opéra qu'il a écrit à Madrid, durant l'époque où il était encore nonce apostolique.
Thank you.
À Rome, en 1630, les historiens de l'art considèrent la construction du baldaquin de Saint-Pierre par le Bernin comme le point de départ du baroque, avec ses lignes torsadées qui croisent, dans un mouvement d'élévation vers le ciel, la ligne droite des colonnes sur lesquelles elles s'inscrivent. Mais Rome est à la fois le siège de la spiritualité qui, urbi et orbi, règne sur la ville, pour ne pas dire la planète entière, et le lieu labyrinthique des bas-fonds de la commedia dell'arte incarnant un profane décomplexé. Comment dès lors traduire musicalement cet oxymore constitutif qui réunit deux visions diamétralement opposées de la vie ? La rigueur austère d'une vie au service du dogme chrétien qui promet un au-delà paradisiaque mais hypothétique et le bouillonnement incontrôlable d'une vie terrestre où triomphe le dérèglement des sens. L'Église qui avait une sainte horreur du théâtre et des acteurs, elle y voyait la main diabolique du mensonge et de la fourberie, en a pourtant fait son miel dans une optique de propagande. Mais l'austérité qui conjuguait texte et musique au lendemain du Concile de Trente tend à vertement s'infléchir dans les années qui voient, à Rome, le triomphe esthétique du baroque et l'éloge des sens dans leurs différentes traductions artistiques. Le Miserere d'Allegri, écrit en 1639 sur le psaume 50 et chanté à la chapelle Sixtine lors des matines des mercredis et vendredis de la Semaine Sainte, est devenu quelque part l'emblème inaugural de cette nouvelle esthétique musicale post-tridentine. Mais d'autres pièces sacrées, comme le Gloria d'Orazio Benevoli, beaucoup moins connues, sont tout aussi chargées de symboles, même s'ils n'ont pas été popularisés par Mozart.
Oh,
Intéressons-nous maintenant à la chapelle pontificale au XVIIe siècle. Son rôle consiste à accompagner le pape dans ses offices quotidiens. Elle ne compte que des chanteurs qui le suivent où qu'il aille, à la chapelle Sixtine, au Quirinal ou hors de Rome, dans sa résidence de Castel Gandolfo. Et puis il existe aussi une seconde chapelle qui porte le nom de Cappella Giulia, ou chapelle julienne du nom du pape Jules II qui souhaita doter la basilique Saint-Pierre dont il venait de poser la première pierre d'un nouveau chœur. Hélas, pour les amoureux du baroque, la musique sacrée que l'on peut entendre dans cet épicentre du monde catholique n'a rien de baroque, puisque le style est antico, l'ancien style de la Renaissance dont nous avons parlé dans l'émission de lundi, avec ses savantes polyphonies, y règne sans partage. Le moule laissé par Palestrina et ses élèves reste en place et est choisi par tous les papes, sans exception. Et hélas aussi pour les amateurs de musique d'orgue, aussi bizarre que cela puisse paraître, la chapelle pontificale n'emploie pas d'organiste. On n'y entend que de la musique a cappella, à un chanteur par voix, ce chœur étant placé sur la tribune, assez petite d'ailleurs, pour donner l'illusion que des anges entourent le trône de Saint-Pierre et chantent sa gloire.
Et captivos consuelos, sed
Une place à la chapelle pontificale se mérite, car le salaire de 200 écus par an est très convenable, d'autant plus qu'il est accompagné d'avantages en nature, pain, vin, bougies blanches, et tous les 7 ans, une dizaine de mètres de tissu pour se fabriquer des vêtements. Hélas, la réputation du chœur, excellente sous Paul V, Urbain VIII et Alexandre VII, trois papes musiciens pour qui la musique était primordiale, fléchira peu à peu dans le troisième tiers du XVIIe siècle pour devenir carrément indigente au cours du XVIIIe siècle. Une des raisons pourrait être que son répertoire était bloqué au XVIe siècle, un art vocal exigeant qui s'était peu à peu perdu et dont beaucoup de chanteurs avaient perdu les clés. Et pour faire acte de candidature, il fallait impérativement intégrer les ordres mineurs, ce qui excluait tout homme marié et finit par décourager les candidats sérieux. Tout au long du XVIIe siècle, les effectifs de la chapelle pontificale auront fluctué, mais se situant autour d'une trentaine de chanteurs, si bien que l'on pouvait entendre un chœur de 6 à 8 chanteurs pour les cérémonies ordinaires, disposés sur une tribune assez étroite, et où tous pouvaient lire sur le même lutrin disposé en son milieu. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, les voix aiguës étaient chantées par les falsettistes et non par des voix d'enfants, comme on le croit parfois. Mais un tel volume, comme la basilique Saint-Pierre, le goût de plusieurs papes pour les tessitures aiguës dans une pureté cristalline, appelait des timbres plus puissants, si bien que l'Église eut recours à des castrats qu'elle recruta tout d'abord en Espagne, puis en Italie, raflant toutes les parties de soprano et bientôt même de contralto, sans que le clergé n'y trouvât redire, bien au contraire. Contrairement à Naples, qui forme ses castrats dans quatre conservatoires prestigieux, à Venise, où l'on éduque les jeunes orphelines à la musique dans les quatre ospedali, Rome ne possède aucune institution de formation, ce qui laisse la voie libre aux écoles privées, tenues par de grands compositeurs ou chanteurs, comme celle de Marco Marazzoli. L'emploi du temps de ces jeunes chanteurs était exigeant, avec une heure par jour passée à chanter des morceaux difficiles, une autre à pratiquer les tris, une troisième à répéter des traits de virtuosité, une autre à étudier la littérature et une dernière à chanter des exercices devant un miroir en compagnie d'un maître. Et ce n'est pas tout. Dans l'après-midi, l'élève étudie la théorie musicale pendant une demi-heure, il improvise un contrepoint durant une autre demi-heure, passe une heure entière à écrire le contrepoint sur une ardoise et pratique le clavecin et la composition sur le restant de la journée. On connaît les édifices rattachés à un palais ou un couvent, et le plus célèbre demeure sans doute la chapelle Sixtine, l'église privée du pape au Vatican, construite par Sixte IV en 1473. Mais le mot renvoie également à l'ensemble vocal et instrumental qui se produit dans un lieu de culte, quel qu'il soit, et qui est dirigé par un maître de chapelle. L'expression « a cappella » indiqué au XVIe siècle, chez Lassus ou Gabrielli, le recours à toutes les forces disponibles. Son emploi pour signifier le seul travail des voix date de la fin du siècle suivant, étant le plus souvent facultative, la basse continue n'est alors cependant pas exclue. Ce sens moderne vient de l'usage romain, où la chapelle musicale rattachée à Saint-Pierre n'était composée que de voix, les compositeurs ne faisant appel aux instruments colla parte que dans les occasions exceptionnelles. Le chœur de Saint-Pierre avait été établi par Grégoire le Grand, mais c'est Jules II qui, le 19 février 1513, peu de temps avant sa mort, le restructure de fond en comble tel qu'il existe encore aujourd'hui, d'où son nom de Cappella Giulia. Au milieu des années 1530, sous Paul III, l'impulsion est donnée qui vaudra à la Cappella Giulia la réputation que l'on connaît et qui, sous la direction de Palestrina, n'aura bientôt pour rival que le chœur de la chapelle Sixtine. Ce dernier, le chœur personnel du pape qui l'accompagne dans tous ses déplacements, sera appelé Cappella Sixtina et les deux joindront leurs forces à l'occasion des grandes fêtes de Pâques et de Noël. Le fond musical de la Cappella Giulia comprend alors une riche collection d'œuvres polyphoniques franco-flamandes. Au début, plusieurs des chantres ne sont pas italiens, ils viennent des Pays-Bas, de la péninsule ibérique, mais l'institution verra l'italianisation progressive tant du personnel que du répertoire. Sous l'influence de Palestrina et après les recommandations du Concile de Trente qui réprouvait une complexité contrapuntique nuisible à la compréhension des textes, se crée alors une façon de faire nouvelle mais toujours rattachée au stile antico. Celle-ci demande l'exécution a cappella et elle deviendra le symbole de la chose ecclésiale, bien que la grande virtuosité d'écriture qu'elle allait connaître aurait sans doute choqué les pères du dit concile. Comptant parmi les meilleurs élèves de Palestrina, Francesco Soriano dirige la Cappella Giulia de 1603 jusqu'à sa mort en 1620. Tenu en haute estime par ses contemporains, il pressent à Rome la révolution faite par Monteverdi à Venise. Il est un des premiers en effet à prévoir la présence d'une basse continue pour accompagner les voix. Dans certains de ses motets, on notera l'alternance rapide entre les trois chœurs, la véhémence rythmique, la présence de syncopes qui brisent le rythme, ainsi que l'effet général de puissance qui illustre les bruyantes louanges à Dieu du peuple assemblé. Un peu plus tard, voici Orazio Benevoli, élève d'Ugolini, qui succède en 1646 à Virgilio Mazzocchi comme directeur de la Cappella Giulia, poste qu'il occupe jusqu'en 1672, année de sa mort. Ce troisième épisode sur la Rome musicale baroque touche à sa fin. Vous pouvez le podcaster sur l'appli Radio France ou le réécouter sur francemusique.fr. Merci à Annie Comnier, Bernard Laniel et Catherine Prinlegal à la réalisation. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain pour la suite de notre aventure romaine au XVIIe siècle.
À réécouter sur francemusique.fr.